répéter comme un perroquet, ça voulait dire répéter bêtement, sans intelligence. On est beaucoup revenu de cette idée. On s'aperçoit maintenant que les perroquets sont parmi les oiseaux les plus intelligents qui soient. Dalila Beauvais est maître de conférence à Nanterre et elle est spécialiste de l'éthologie en général. Elle a beaucoup travaillé sur les primates et elle travaille maintenant chez les perroquets. Donc, elle va nous faire un exposé sur ces thèmes, sur l'intelligence animale. Tu
préfères un micro comme ça ? Oui. Merci. Donc, ma conférence s'intitule « Les progrès de la connaissance en cognition animale » et je vais vous parler en particulier d'une hypothèse récente qui est l'hypothèse du cerveau social. Alors, d'où elle vient cette hypothèse ? Elle vient du fait que lorsqu'on teste des singes en laboratoire, on constate qu'ils ont un gros cerveau et, comme on l'a déjà dit, une intelligence particulièrement développée. Et donc, à partir de là, on va se dire, bon, d'accord, ils sont intelligents, mais d'où ça vient ? Si ils ont un gros cerveau, sachant que ça représente, au secours, un coût énergétique, c'est revenu, merci. Donc, s'ils ont un gros cerveau, c'est bien que ça leur sert à quelque chose aussi dans la nature et qu'ils ne l'ont pas simplement développé pour faire plaisir aux chercheurs. Mais si on regarde la façon dont ils vivent dans la nature, on constate que ils n'ont pas tellement l'air d'avoir besoin d'être particulièrement intelligents lorsqu'il s'agit de trouver leur nourriture ou d'échapper aux prédateurs. Ils n'ont pas de stratégie particulièrement complexe par rapport à d'autres animaux dans ce domaine. Mais leur cerveau pourrait aussi leur servir à autre chose, qui serait, dans leur vie sociale, à connaître les relations entretenues par des congénères, à prévoir ou à manipuler le comportement de ces congénères, à leur transmettre des informations précises, ou encore à réguler les conflits. D'où l'hypothèse du cerveau social. Ce serait que finalement, les primates auraient développé leur intelligence non pas pour chercher de la nourriture ou pour lutter contre les prédateurs, mais précisément pour gérer la complexité de leurs relations sociales. Donc, ils auraient besoin dans la nature d'un gros cerveau pour pouvoir gérer leur vie sociale qui est particulièrement complexe. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer quelques exemples de domaines dans lesquels, effectivement, les singes, mais également d'autres animaux, utilisent une intelligence développée dans le cadre de leur vie sociale. Et donc, on va commencer par la catégorisation de relations sociales. Et la catégorisation de relations sociales, c'est la capacité à utiliser des sortes de concepts sociaux, comme par exemple la relation mère-jeune, ou on peut imaginer d'autres relations de parenté, mais la relation mère-jeune est probablement la première est une des plus importantes pour des singes, ou également comme la relation de dominance, comme les relations affiliatives, qui est le type de relation qui s'établit entre deux individus qui semblent avoir du plaisir à être ensemble, sans être forcément apparentés. Et l'utilité de tous ces concepts sociaux, c'est que ça peut permettre de prévoir le comportement des congénères. Imaginez que je suis une femelle babouin, je vois un petit jeune là-bas avec une banane qui m'a l'air bien appétissante, je suis tentée de la lui piquer, mais je vais peut-être être capable de réfléchir et de me dire, bon, lui, ça va, il est plus faible que moi, mais sa mère, par contre, elle, je la connais, elle est beaucoup plus forte que moi, et si j'ose m'attaquer à son petit, je vais me prendre une rouste. Donc, on voit assez bien comment, effectivement, dans la nature, ça peut être utile d'être capable de manipuler ce genre de concept. Reste à vérifier que les singes en sont effectivement capables. Et pour le vérifier plus facilement, on a recours à des études en laboratoire. Par exemple, sur la catégorisation de la relation mère-enfant, on va utiliser un groupe de singes élevés en captivité, qui se connaissent entre eux. Et on va prendre l'un de ces singes et lui montrer la photographie d'une femelle membre de son groupe et lui donner le choix entre les photographies de deux jeunes du même groupe, l'un étant le petit de la femelle présentée et l'autre étant un autre jeune. Et notre femelle est alors récompensée si elle appuie sur le bouton correspondant au petit de la femelle présentée. Donc elle apprend ça simplement, c'est une tâche de conditionnement. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'à partir du moment où elle a compris pour une femelle donnée et son petit, on change les photos, on lui présente des photos d'autres membres de son groupe, avec de nouveau le même type de tâche, une femelle, son petit et un autre. Et on constate qu'effectivement, dès les premières présentations de ces nouvelles photos d'un autre membre du groupe, les sujets sont effectivement capables de choisir systématiquement le petit de la femelle présentée, ce qui montre qu'ils ont bien un concept de la relation mère-enfant. Un peu de la même façon, on peut tester une autre catégorie de relation, qui serait la relation de dominance. Grâce à des singes qui sont entraînés à utiliser un joystick, il le tient ici dans sa main, pour faire bouger un curseur sur un écran d'ordinateur. Grâce à ce dispositif, on leur montre des courtes vidéos de quelques secondes qui représentent par exemple un macaque en train d'en poursuivre un autre. Et à la fin du film, nous avons un arrêt sur image et le sujet est récompensé s'il choisit l'individu dominant, c'est-à-dire celui-ci, celui qui poursuit l'autre. Donc de nouveau, au début, on lui apprend ça en le récompensant quand il fournit la réponse correcte. Et à partir du moment où il a compris, on va lui présenter... Donc il a compris pour un comportement donné. On lui présente un comportement qui est totalement différent. Nous avons ici ce macaque qui est le subordonné, ce qui se marque par le fait qu'il fait une grimace particulière qui indique la soumission chez cette espèce. Et donc cette fois-ci, le sujet doit choisir l'autre individu qui est le dominant. Et effectivement, les macaques sont de nouveau capables de résoudre cette tâche. Cette fois-ci, il s'agit de congénères qui leur étaient inconnus au départ, ce ne sont pas des membres de leur groupe. Mais simplement à partir de ces comportements, ils sont capables de déduire quel est l'individu dominant. Donc ceci nous montre de nouveau la capacité d'utiliser un concept tel que celui de dominance. Donc ces études ont d'abord été réalisées chez les singes, et puis on s'est demandé si c'était limité aux singes ou si d'autres espèces étaient capables d'utiliser ce genre de concepts sociaux. Alors chez d'autres espèces, c'est plus difficile de répondre parce qu'il y a eu moins d'études. Par exemple, chez les hyènes, ce sont également des espèces sociales qui semblent également avoir un réseau social assez complexe. Et certaines observations réalisées sur des hyènes sauvages semblent montrer qu'elles aussi sont capables de connaître les relations de dominance ou les relations de parenté entretenues par des tiers. La difficulté avec ces animaux, c'est que ce sont essentiellement des animaux qui ont été étudiés dans la nature, et donc c'est plus difficile de conclure à partir d'observations de terrain. Et en ce qui concerne les oiseaux, nous avons les geais qui sont des corvidés, comme Georges Chapoutier l'a déjà souligné, donc qui appartiennent à une des deux familles d'oiseaux les plus intelligentes, l'autre étant celle des perroquets. Les geais testés cette fois-ci en laboratoire sont capables d'observer la relation de dominance entre deux individus tiers, et ils sont même capables de la déduire en utilisant une relation transitive, c'est-à-dire qu'ils savent que si A domine B et B domine C, alors nécessairement A va dominer C. Donc c'est quand même un niveau d'abstraction qui est assez poussé. Alors je passe maintenant à un deuxième domaine dans lequel l'intelligence sociale est importante, c'est le domaine de la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, bon, c'est une traduction des termes anglais theory of mind, c'est la capacité d'attribuer à autrui des états mentaux. Nous avons des états mentaux, nous en sommes conscients, mais est-ce que les animaux sont conscients que d'autres individus en ont aussi, que d'autres individus, par exemple, voient des choses, c'est le domaine de la perception, ont des intentions ou des désirs, ou encore ont des savoirs ou des croyances. Alors ça, c'est quelque chose qui est très discuté. On commence à avoir beaucoup de résultats maintenant en ce qui concerne les singes, et on va donc un peu survoler ces trois niveaux. Le niveau le plus simple étant l'attribution de perception, c'est-à-dire la capacité à savoir si un autre individu voit ou non quelque chose. Qu'on peut tester avec le dispositif suivant. Nous avons deux singes de part et d'autre d'un espace ouvert. Au début de l'expérience, ils sont chacun bloqués derrière une porte. Et nous avons deux cacahuètes. L'une est visible uniquement pour le subordonné. Vous voyez que l'écran ici empêche le dominant de la voir. Et pour l'autre, l'écran est placé différemment et elle est donc visible pour les deux individus. On va ensuite ouvrir les portes aux deux individus en donnant une petite longueur d'avance au subordonné. Et on regarde évidemment la cacahuète qu'il va choisir. S'il est capable d'attribution de perception, il choisira la cacahuète qu'il est seul à voir. qui va lui permettre évidemment d'éviter un conflit avec son dominant. Alors les résultats qu'on observe, c'est que ça dépend des espèces de singes qu'on va tester. Des singes non anthropoïdes comme les macaques ou les capucins ne font pas la différence entre les deux types de friandises. Ils vont aller indifféremment vers celle qui est cachée ou pas pour le dominant. Donc ils ne semblent pas capables d'attribuer une perception à un congénère ou à un humain. On peut aussi faire l'expérience avec un humain qui veut aussi s'emparer de la cacahuète. Par contre, quand on fait l'expérience avec des singes anthropoïdes comme les chimpanzés, là, ils sont capables de faire la différence entre les deux et donc d'attribuer des perceptions à leurs congénères. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait le même genre d'expérience avec un chien ? Nous avons ici un expérimentateur qui montre une friandise au chien en lui interdisant de s'en approcher. Là-dessus, l'expérimentateur va s'asseoir dos tourné au chien. Le chien le vérifie et puis il va ensuite se précipiter pour manger la friandise. Je pense que vous avez tous vécu ce genre d'expérience. Le chien ou le chat qui attend qu'on soit sorti de la pièce. Donc, on compare le comportement du chien en fonction du comportement de l'expérimentateur. Si l'expérimentateur lui permet de prendre la friandise, le chien la prend dans 100% des cas. Si l'expérimentateur lui interdit et le surveille, la plupart du temps, le chien n'osera pas y toucher. Alors que si l'expérimentateur sort, à peu près tous les chiens craquent et mangent la friandise. Mais là où ça devient intéressant, c'est les cas où l'expérimentateur est présent mais ne regarde pas vers le chien. Donc parce qu'il a les yeux fermés, il est distrait, il regarde ailleurs ou il a le dos tourné. Et on a alors un comportement intermédiaire de la part du chien, ce qui semble donc montrer qu'il est sensible à l'état d'attention de son maître. Ou ici d'ailleurs d'un expérimentateur qui n'est même pas son maître. Donc les chiens ici sembleraient meilleurs que les singes non anthropoïdes. Nous avons réalisé le même genre d'expérience chez des perroquets. Alors on place devant le perroquet deux objets attractifs. Il faut savoir que pour les perroquets, qui sont des animaux très curieux et qui aiment bien détruire, beaucoup d'objets sont attractifs. Par exemple, les claviers d'ordinateur, les stylos, les gommes, etc. Ils passent leur temps à essayer de s'en emparer et nous à essayer de les en empêcher. Donc l'expérience était assez facile à mettre en place. On a ici, par exemple, deux claviers d'ordinateur. L'un est placé derrière un écran transparent et l'autre derrière un écran opaque. Donc c'est un peu le même type de tâche qu'on a vu avec les singes. Et on constate que l'un des perroquets sur les trois que nous avons testés était capable de choisir préférentiellement l'écran opaque, donc celui derrière lequel l'expérimentateur qui se trouve là ne le voyait pas. Donc à vérifier chez le perroquet, puisque nous n'avons pour l'instant que trois individus testés, certains au moins semblent capables d'attribution de perception. Alors le stade suivant, plus difficile, a priori on va du plus simple vers le plus compliqué ici, c'est l'attribution d'intention. Est-ce qu'on peut se rendre compte non seulement que les autres voient ou ne voient pas des choses, mais qu'ils ont certaines intentions ? Une expérience classique qui a été réalisée dans ce domaine, c'est un test qui a été fait avec Sarah, l'un de ces chimpanzés auxquels on a appris un système de symboles. Donc une femelle très habituée à vivre avec des humains. Et on lui présentait sur une vidéo des problèmes rencontrés par un expérimentateur. Donc par exemple, l'expérimentateur essayant de sortir d'une cage, l'expérimentateur ayant froid face à un radiateur à gaz éteint, ou encore l'expérimentateur essayant d'atteindre des bananes, les bananes étant situées à l'extérieur de la cage avec un accès bloqué par une caisse de parpaing. Et ensuite, Sarah pouvait choisir la solution parmi plusieurs photos qu'on lui proposait. Et donc elle choisissait la clé intacte pour l'expérimentateur essayant de sortir d'une cage, le papier allumé pour l'expérimentateur qui avait besoin d'allumer son radiateur, et l'expérimentateur en train de vider la caisse de parpaing pour celui qui essaye d'atteindre les bananes, mais à une condition. Il fallait que l'expérimentateur présenté dans la vidéo lui soit sympathique. Si c'était son soigneur préféré, aucun problème, elle choisissait toujours la bonne solution pour lui. Si c'était une personne qu'elle n'aimait pas du tout, elle choisissait systématiquement l'inverse. Elle semblait prendre un malin plaisir à choisir la photo du pauvre type par terre avec les parpaings éparpillés sur lui. Alors, on a réalisé quelque chose de plus simple, mais qui concerne également l'attribution d'attention avec nos perroquets. On a ici un expérimentateur face au perroquet qui lui montre des graines, mais qui, pour diverses raisons, ne va pas les lui donner. Soit l'expérimentateur, et on regarde le comportement du perroquet en fonction du comportement de l'expérimentateur. Dans la première situation, donc, notre expérimentateur est distrait, il fait autre chose, et du coup, le perroquet ne fait pas grand-chose. Majoritairement, il attend patiemment. Dans la deuxième situation, l'expérimentateur essaye de faire passer les graines à travers le grillage, mais il n'y arrive pas, il est bloqué. Et à ce moment-là, on voit que le perroquet va essentiellement avoir ce comportement-là, qui est de mordre le grillage. Et dans une troisième situation, l'expérimentateur ne donne toujours pas les graines, mais cette fois-ci, il le fait exprès. Il montre bien au perroquet qu'il ne veut pas les lui donner, il le taquine. Donc, le perroquet, la pauvre bête dans cette situation, est de toute façon frustré, mais il exprime sa frustration de façon très différente en fonction des intentions de l'expérimentateur. Ici, il dirige sa frustration contre le grillage, qui semble être l'obstacle. Ici, il a plutôt des comportements de bec ouvert, donc pour réclamer de la nourriture, des vocalisations qui servent aussi à réclamer, de frapper et gratter le sol pour montrer sa frustration, etc. Donc il semble très bien faire la différence entre un expérimentateur qui a des bonnes intentions, qui essaye de lui donner la graine même s'il n'y arrive pas, par rapport à un expérimentateur qui a de mauvaises intentions et qui ne veut pas lui donner sa graine. Et enfin, le dernier stade qui est le plus complexe, c'est d'attribuer à des congénères ou à d'autres individus d'une autre espèce des savoirs ou des croyances. Là aussi, on a surtout les expériences chez les chimpanzés. Et on peut réaliser donc une expérience qui ressemble à celle concernant l'attribution de perception. Sauf que cette fois-ci, on a deux écrans qui, dans les deux cas, empêchent le dominant de voir où se trouve la friandise. Mais l'expérimentateur va soit la placer en la montrant au dominant. Donc même s'il ne la voit pas, il sait où elle est parce qu'il se souvient où on l'a mis. On aura alors un dominant informé. Soit il va la placer lorsque le dominant ne pourra pas regarder, et donc le dominant ne saura pas où elle est. Soit encore, il va la placer à un endroit pendant que le dominant regarde, et ensuite la changer en la mettant de l'autre côté. Le subordonné, lui, voit toujours tout. Donc non seulement il sait où est la friandise, mais il sait ce que le dominant a vu ou pas vu. De nouveau, on libère le subordonné un peu avant le dominant et on constate qu'on trouve des différences en ce qui concerne le pourcentage de friandises obtenues. Notre subordonné va obtenir plus facilement la récompense si le dominant est non informé ou mal informé que s'il est informé. Et plus intéressant encore, c'est le nombre de non-approches, donc le nombre de fois où le subordonné n'essaye même pas de s'approcher d'une quelconque friandise. Là aussi, c'est beaucoup plus fréquent lorsque le dominant est informé que lorsque le dominant est non informé ou mal informé. Donc, il semble bien ici qu'il y ait une capacité d'attribution de savoir chez le chimpanzé. Capacité qu'on ne trouve pas de nouveau chez les singes non anthropoïdes. Il n'y a pas eu énormément d'expériences, mais toutes celles qui ont été réalisées ont donné des résultats négatifs. Alors, il y a une expérience originale qui a été réalisée chez le porc, espèce dont on ne parle pas beaucoup en cognition animale, mais dont on va entendre parler tout à l'heure. Et donc, l'expérience est assez élégante. Nous avons ici le sujet qui nous intéresse, c'est celui du milieu. Un expérimentateur va venir traverser la cour et mettre de la nourriture dans un des box. Et donc, le sujet du milieu ne voit pas où va la nourriture parce qu'il a une porte opaque. Mais il peut voir que son voisin de droite ne voit rien non plus et que par contre, le voisin de gauche, lui, a une porte en grillage et donc voit où est placée la nourriture. Donc, évidemment, on regarde ce que va faire notre cochon. Pour le coup, lui, il est lâché avec un temps de retard. On va voir s'il va suivre son voisin de droite ou celui de gauche. Donc, on regarde le nombre de fois où il suit le voisin informé en vert, en rouge celui non informé, ou en bleu il suit personne, il choisit son propre couloir. Et la manip est réalisée sur 10 sujets. Donc on voit que globalement, ben, il n'y a pas grand-chose. Ils ont à peu près autant tendance à suivre celui qui est informé que non informé. Et également, souvent, ils ne suivent personne. Et ils semblent choisir un couloir plutôt au hasard. Sauf peut-être un sujet, le numéro 3 ici, qui a quand même choisi 8 fois l'individu informé sur 12 essais. Alors, est-ce qu'on a affaire à un génie parmi les cochons? Quand j'ai rencontré le chercheur qui a fait la manip quelques temps après, je lui ai dit « Mais pourquoi vous n'avez pas retesté ce cochon dans la même tâche ou dans une autre du même genre ?» Et il m'a dit « Ben oui, j'aurais bien aimé, mais on a fait la manip dans un élevage et à la fin de l'expérience, comme c'était prévu, les cochons sont partis à l'abattoir. » Donc, on ne saura jamais de ce qu'il en était de cet individu, mais ça vaudrait peut-être le coup de retester des cochons dans des tâches de ce type-là. Alors, chez les oiseaux, on retrouve nos amis légers, qui, comme beaucoup de corvidés, ont la particularité de cacher leur nourriture. Et ici, comme vous le voyez, on est en laboratoire. On va proposer aux geais des bacs à glaçons remplis de sable et des aliments à cacher, en l'occurrence des vers de farine. Alors, on donne tout ça aux geais une première fois, soit dans une situation où il est dans l'intimité, il peut cacher ses vers tout seul, soit dans une situation où il est observé par un congénère. Dans un deuxième temps, on va lui proposer un deuxième bac à glaçons, et cette fois-ci, on va le laisser tranquille, on a enlevé le congénère s'il y en avait un. Donc notre geai était soit seul pour sa première cachette, soit observé. S'il était seul, il va laisser les vers de farine là où il les a cachés, ce qui est logique, personne ne l'a vu, il n'y a pas de raison de les changer de place. S'il était observé la première fois, il va les reprendre et les recacher, et pas n'importe où, il les recachera dans le nouveau bac qu'on lui a donné, et pas dans l'ancien. Donc il semble être capable de se dire, mon voisin m'a vu pendant que je cachais dans le bac bleu, je ne vais pas les laisser là, je vais les cacher dans le bac vert, maintenant que je suis tranquille et que personne ne me voit. Et ce qui est d'autant plus frappant dans cette expérience, c'est qu'on trouve ce comportement uniquement chez les geais, ayant déjà chapardé les caches des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on avait deux groupes d'oiseaux. Un groupe d'oiseaux qui avait eu l'occasion d'observer les autres cachés et puis d'aller leur piquer leur verre de farine. Et un groupe d'oiseaux, entre guillemets, honnêtes, auquel on n'avait jamais donné l'occasion d'aller voler chez les autres. Et ce groupe d'oiseaux naïfs ou honnêtes par la force des choses ne se méfie pas. Dans toutes les situations, même s'ils ont été observés, ils vont laisser les vers de farine globalement là où ils les ont mis. Donc il semblerait que pour être capable d'attribuer à la fois l'intention de voler et le savoir de l'endroit éventuel où est cachée la nourriture, les geais utilisent leur propre expérience. Donc ils sont capables de se projeter. Moi, j'ai été voler les vers de farine des autres. Les autres pourraient très bien faire la même chose. Un phénomène qu'on peut observer chez l'humain, c'est souvent les gens malhonnêtes qui vont imaginer des intentions tortueuses chez les autres, mais qui est rarement décrit chez les animaux. Alors, je vais passer rapidement sur la communication référentielle. On en a déjà parlé aujourd'hui. Par communication référentielle, j'entends la capacité à communiquer de façon précise sur des objets du monde extérieur. Et on va trouver cette capacité dans la nature, de façon spontanée. L'exemple très célèbre en éthologie, c'est celui des singes vervés. Ils ont trois cris d'alarme différents qui indiquent la présence d'un prédateur différent. Donc un type de cri qui sera poussé pour un léopard, un autre pour un prédateur aérien comme un aigle, et un autre encore pour le serpent. Et chaque fois, les singes qui entendent ce cri d'alarme ont une réponse appropriée qui montre qu'effectivement, ils ont une représentation mentale du prédateur correspondant à ce cri. Donc ça, c'est l'exemple classique. Tous les étudiants débutants en éthologie le connaissent. Ce que moins de gens savent, c'est que ce n'est pas réservé aux singes. Chez pas mal d'oiseaux, on trouve également des vocalisations d'alarme assez précises. Et par exemple, vous avez les mésanges à tête noire, qui ont un cri particulier pour indiquer la présence d'un rapace violent. Et un autre exemple, quand il s'agit d'un prédateur immobile. Avec une gradation dans le danger, donc en fonction de la taille du prédateur, L'oiseau fait un cri qui ressemble, pour nos amis les chercheurs anglophones, à Chickadee. Et donc, il va faire Chickadee-dee, si ce n'est pas trop dangereux. Et Chickadee-dee-dee-dee-dee, si il s'agit d'un prédateur plus dangereux. Bon, alors, il y a d'autres exemples, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais passer à la communication symbolique, celle qu'on apprend à certains animaux. Chris a déjà très bien parlé d'ouachou, donc j'insiste pas là-dessus. On va passer plutôt à d'autres espèces. Chez les chiens, bon, on n'a pas donné aux chiens la capacité de parler. C'est plus difficile, évidemment, de leur apprendre le langage des signes, mais au moins au point de vue compréhension, on a quelque chose qui est quand même assez impressionnant, puisque un chien et puis d'autres de la même espèce ont montré des performances, de la même race, ont montré des performances comparables. Ce chien-là, par exemple, connaissait les noms d'environ 200 de ses jouets. Donc, on pouvait l'envoyer chercher dans une autre pièce en l'appelant par son nom n'importe lequel de ses jouets. Et il pouvait également apprendre un nouveau nom par défaut. Ce qui veut dire que si on lui disait « va chercher le Schmilblick », par exemple, et qu'il n'ait jamais entendu Schmilblick, il allait voir quand même. Il y avait des jouets qu'il connaissait. Donc, ça, c'est la pantoufle, ça, c'est la carotte, c'est pas ça. Il voit un nouveau jouet, il en déduit que c'est ça, le Schmilblick. Et il s'en souvient plusieurs semaines après. Si on lui redit « va chercher le Schmilblick », il ira directement chercher cet objet-là. Les dauphins, donc Jean Chapoutier en a parlé aussi, ils sont capables, là aussi c'est de la compréhension, de comprendre un langage par geste, avec des combinaisons de mots pour former des phrases. Donc par exemple, ici, le dauphin comprend quelque chose comme « apporte le ballon et mets-le à droite de la planche de surf ». Donc avec des concepts quand même assez abstraits comme gauche-droite, le ballon à droite de la planche de surf, c'est pas la même chose que la planche de surf à droite du ballon. Et enfin Alex, donc un célèbre perroquet gris du Gabon. Il pouvait nommer 50 objets différents, mais également des couleurs, des matières ou des formes. Et donc pour un même objet, il pouvait répondre à une question comme quelle couleur ou quelle forme. Ou encore, il pouvait combiner ses propriétés pour répondre à des questions comme « Quelle forme a le tissu vert ?» Il pouvait aussi utiliser des propriétés relatives. Donc on pouvait lui demander quelle couleur est plus grande. Et il répondait « Vert » si c'était l'objet vert le plus grand parmi les objets présentés. Ou encore « Qu'est-ce qui est pareil entre deux objets ?» Il répondait par exemple à « Forme ». Et « Qu'est-ce qui est différent ?» Il pouvait répondre par exemple à « Matière ». Alex avait aussi compté jusqu'à 6. Donc, en anglais, on lui présentait un certain nombre d'objets. Bah oui, mais si vous, quand vous arriverez à me remettre l'image. Heureusement, c'est... je ne sais pas. Donc, il pouvait, par exemple, comparer entre deux objets, indiquer lequel était le plus grand ou le plus petit. Ça, j'ai déjà dit. Il pouvait compter jusqu'à 6 et réaliser des additions si on lui montrait des quantités d'objets séparés. Il pouvait aussi dire non quand il ne voulait pas d'une chose, ou dire au contraire « je veux telle chose », par exemple « je veux une noix ». Alors on va essayer de fermer ça. Ou « je veux aller à tel endroit ». Donc il pouvait répondre à des questions, mais aussi exprimer clairement ses désirs. Et je vais dire deux mots pour revenir sur la question de la proto-morale, qui nous est chère à Jean Chapoutier et à moi, je pense. Donc la question de l'empathie. Bon, très rapidement, on en a beaucoup d'exemples chez les singes anthropoïdes notamment, et aussi à certaines espèces qui sont célèbres pour ça, comme les dauphins, qui vont aider leurs congénères en perdition. Ici, vous les voyez en train de soutenir un individu blessé pour l'empêcher de se noyer. Et comme vous le savez, il leur arrive également de faire la même chose vis-à-vis d'un humain qui est en risque de se noyer. Donc il y aurait beaucoup à dire sur l'empathie, mais j'en ai pas le temps. Donc je vais passer à une autre notion qui est le sens de la justice. On fait la manip suivante chez des petits singes qui sont des capucins. On va les entraîner à donner des jetons, et en échange du jeton, notre singe reçoit une rondelle de concombre. Et c'est pareil pour le voisin. Il donne son jeton, il reçoit du concombre. Jusque-là, tout va bien. Sauf que dans un deuxième temps, le premier singe doit toujours donner son jeton pour obtenir du concombre. Mais pendant ce temps-là, le voisin, en échange de son jeton, reçoit du raisin, ce qui est quand même bien meilleur. Et dans un troisième temps, la duplicité des chercheurs n'a pas de borne. Notre pauvre sujet donne toujours son jeton en échange du concombre. Et le voisin, cette fois-ci, n'a rien à faire et reçoit le raisin sans même travailler. Alors, comment va réagir le singe qui subit l'inégalité ? D'abord, dans la situation d'égalité, on a ici le refus des échanges et on voit qu'il est quasiment nul. Le singe est très content de travailler, de donner ses jetons pour du concombre. Dans la situation d'inégalité, où le voisin reçoit du raisin pour le même travail, on a presque 50% de refus d'échange. Et dans la situation de double inégalité, où le voisin reçoit du raisin sans même avoir travaillé, on est à 80% de refus d'échange. Le refus d'échange s'exprime par le fait que le singe qui s'estime lésé ne donne plus ses jetons, refuse le concombre qu'on lui donne. Il va parfois même jusqu'à jeter le concombre à la figure de l'expérimentateur. Donc, une certaine notion due à travail égal, salaire égal chez les petits singes. Et enfin, je vais aborder la notion de réciprocité. Là aussi, il y a beaucoup d'exemples chez les animaux, mais j'en ai pris un chez les oiseaux. Vous avez peut-être constaté que lorsqu'il y a un gros prédateur, les petits oiseaux sont parfois capables de s'assembler et de harceler le prédateur en poussant des cris, volant tout près, etc. Assez souvent, ils arrivent à le faire fuir. Donc ici, les chercheurs ont utilisé ce comportement chez les gobe-mouches. Ils vont placer un prédateur, en l'occurrence une chouette empaillée, à proximité d'un nid. Et tout de suite, les parents propriétaires de ce nid vont harceler le prédateur. Et ils ne sont pas seuls. Généralement, ce qui se passe dans la nature, c'est que les voisins arrivent aussi pour prêter main forte, même s'ils ne sont pas directement menacés. Donc on a notre couple A, qui est le premier concerné, qui attaque le prédateur, et le couple de voisins, qu'on a ici appelé C, qui vient leur prêter main forte. Et pendant ce temps-là, les chercheurs ont mis en cage un autre couple de voisins, le couple B, qui du coup ne va pas pouvoir venir aider. Ensuite, on déplace les prédateurs, on en met cette fois un à proximité du nichoir du couple C et un autre à proximité du nichoir du couple B. Et on constate que le couple A va choisir d'aller aider pas n'importe lequel, ils vont aider le couple C qui les a aidés précédemment et pas le couple B qui n'est pas venu. Et ceci reste très net. Même lorsqu'il y a seulement un prédateur chez le couple B, le couple C va aller aider, puisque lui n'a pas de raison d'en vouloir au couple B, mais le couple A continue à bouder et à ne pas vouloir aider ceux qui ne l'ont pas aidé quand lui-même avait des problèmes. Alors, deux mots sur l'apprentissage social et la culture. Là aussi, ce sont des sujets qui ont heureusement été déjà abordés. Donc, juste pour revenir sur la notion de culture chez des chimpanzés sauvages, les chercheurs ont essayé de comparer différentes populations de chimpanzés. Donc ici, vous voyez qu'on a 7 populations de chimpanzés différents. Et ils ont cherché les comportements qui variaient suivant les populations. Par exemple, nous avons la pêche à la termite, qu'on va trouver dans certaines populations de façon rare en rose, fréquente en vert ou carrément absente, représentée par la croix rouge. Dans certains cas, il y a une explication écologique. Par exemple, il n'y a pas de termites, donc ce n'est pas très intéressant. Mais dans d'autres cas, on a des populations très proches qui sont exactement dans les mêmes conditions écologiques et pourtant, on ne trouve pas les mêmes comportements. Un groupe va chasser la termite, un autre groupe ne le fera pas. Même chose pour d'autres comportements comme l'utilisation d'une feuille pour se nettoyer. Elle est fréquente chez certaines populations, rare chez d'autres et absente encore dans d'autres. Autre exemple, le cassage de noix en utilisant des outils en bois, qu'on ne va trouver que dans une seule population. Et par contre, le cassage de noix avec un marteau et un enclume, cette fois-ci en pierre, qu'on va retrouver dans la même population, mais également dans d'autres. alors que certaines populations, qui ont pourtant les mêmes noix, ne les cassent jamais. Pas capables d'utiliser des outils, et ils n'ont pas la force avec leurs dents de le faire. Et on va trouver ça aussi pour des comportements sociaux, comme la façon de se tenir pendant les pouillages. Ici, il existe un geste particulier qu'on va trouver chez certaines populations et pas chez d'autres. Donc, de cette façon-là, 7 populations de chimpanzés ont été observées, comme je vous le disais, et on a observé au total 65 comportements différents, dont 39 ne sont en tout cas pas explicables par des conditions écologiques. Alors, est-ce qu'on peut parler de culture ? Évidemment, on peut discuter sur les termes. Suivant que vous vous adressez à un anthropologue, vous n'aurez pas forcément le même type de réponse, mais les éthologues se sont au moins mis d'accord pour une définition, qui serait que la culture, ça serait la transmission sociale de nombreux comportements dans différents domaines. Donc, par exemple, les techniques, la communication, le confort, etc., de génération en génération, et il faut évidemment que ça ait lieu par l'observation des autres et non par les gènes. Donc, si on accepte cette définition, on peut effectivement parler de culture chez les chimpanzés. Alors, Chris a très bien montré la culture partagée pour les singes qui sont élevés par des humains. Je vais montrer ici un exemple chez les perroquets. Il est un peu long à démarrer au début, donc ses maîtres sont en train de le stimuler pour obtenir le comportement voulu, qui ne va pas tarder. Alors on voit qu'il a du mal, donc c'est d'autant plus intéressant de voir que finalement il va quand même se mettre à chanter. Il ne s'agit évidemment pas d'un perroquet de labo, c'est un perroquet élevé par des particuliers. Et alors lui, son truc, c'est pas le chant, c'est la danse, sur une musique de Ray Charles. Un peu lent au démarrage aussi. Donc des comportements qui ne sont pas non plus naturels chez les perroquets. On pense bien que ces mouvements de tête sont inspirés de ce qu'il a vu chez les humains. De même que les battements d'ailes. Après, il va faire des mouvements de pieds aussi. Pardon ? Qu'est-ce que ça montre ? Je ne sais pas, de nouveau, ce n'est pas une expérience contrôlée. Mais manifestement, il a été élevé avec des gens qui ont dansé devant lui. Donc il a vu tout ce que vous pouvez imaginer de mouvements de bras, de pieds, de tête, etc. Donc pour revenir, pour conclure rapidement, donc on a vu qu'effectivement les animaux utilisaient leur intelligence de façon poussée dans le domaine social. Mais est-ce qu'on peut vraiment tester cette hypothèse et vérifier que c'est avant tout le domaine social qui va pousser le développement du cerveau ? On peut avoir des éléments de réponse en comparant le développement du cerveau de différentes espèces de singes en fonction de leurs conditions de vie. Donc se demander si les singes qui vivent en groupe de taille importante ont un plus gros cerveau que les autres, ça reviendrait à confirmer l'hypothèse du cerveau social, ou s'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Est-ce que c'est ceux qui ont un plus grand territoire et donc qui doivent développer une mémoire spatiale qui ont un plus gros cerveau ? Est-ce que c'est en fonction du régime alimentaire ou des techniques d'alimentation ? Et la réponse est qu'on trouve bien une corrélation avec la taille du groupe, alors qu'on ne la trouve pas avec les autres facteurs. Donc ceci confirme bien l'hypothèse du cerveau social. C'est le principal moteur qui amène le développement du cerveau chez les primates, donc chez les singes et très probablement chez les humains aussi. Alors, qu'est-ce qu'il en est d'animaux autres que les primates ? Eh bien, on va retrouver des choses qui ressemblent à l'échelle de chaque groupe d'espèces, évidemment. Donc, une corrélation entre la taille relative du néocortex, la partie du cerveau la plus évoluée, qui est en gros le siège de l'intelligence. Corrélation donc entre ces néocortex et la taille du groupe chez d'autres groupes d'animaux, comme les chauves-souris, les cétacés à dents, les carnivores ou les ongulés. Et chez les oiseaux, ils n'ont pas de néocortex, mais ils ont d'autres structures qui font également partie du télencéphale, donc toujours la partie la plus évoluée du cerveau qui joue le même rôle que le néocortex. Et cette structure-là aussi dépend de la structure sociale des oiseaux. Donc juste pour conclure, ce que j'espère vous avoir montré aujourd'hui et que sur lequel d'autres personnes vont insister encore, puisqu'on a une partie éthique cet après-midi, c'est que beaucoup d'animaux sont intelligents, avec malheureusement le corollaire que ces animaux sont capables de souffrir non seulement de mauvaises conditions physiques, ce qui est évident pour tout le monde, mais ils vont souffrir également s'ils sont privés de contact avec des congénères ou s'ils n'ont rien à faire. Donc Chris a très bien montré tout à l'heure comme c'était important que les singes aient leur monde social, qu'ils aient des choses à faire, etc. Ça paraît inhumain maintenant pour à peu près tout le monde de voir un singe tout seul dans une cage. Malheureusement, quand c'est un perroquet qui est tout seul dans une cage, ça choque beaucoup moins. Donc ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'il y a d'autres animaux, comme les perroquets, qui ont tout autant besoin de compagnons, de stimulation intellectuelle. Les cochons, probablement des besoins aussi qu'on ignore très souvent, etc., etc. Voilà, je vous remercie.
On a 10 minutes pour les questions. On va s'arrêter vers 13h30, alors... J'ai du mal à passer. Merci.
Oui, moi j'ai une question très générale à poser. Dans toutes ces expériences que tu as montré, est-ce que tu t'es posé la question que se pose justement régulièrement et qu'elle vient de se poser dans le dernier bouquin laquelle est sortie, Vinciane Desprez, est-ce qu'ils répondent vraiment aux questions qu'on leur pose, ou est-ce qu'ils interprètent, les animaux, la situation de leur façon dans leur univers à eux et qu'ils répondent à une autre question que la question qu'on leur pose?
Alors c'est une vaste question et évidemment c'est pas forcément facile de savoir ce qu'il en est. Je pense que ce qu'on peut remarquer quand même avec les expériences récentes, c'est que plus on se met dans le monde de l'animal et plus on essaye de lui poser des questions qui sont signifiantes pour lui, c'est aussi ce que dit Vinciane Desprez, plus on va le trouver intelligent. Donc ceci semble bien montrer que d'une certaine façon, il y a des questions qui sont adaptées probablement à l'animal ou pertinentes pour lui. Et comme par hasard, on va trouver qu'effectivement, il a des performances impressionnantes. Alors que quand on le testait en essayant de standardiser, en mettant tous les animaux dans des petites boîtes à pousser et tirer sur des leviers en réponse à des formes géométriques, on arrivait facilement à la conclusion que les singes étaient intelligents et que les rats ne l'étaient pas, ou que les pigeons ne l'étaient pas non plus, mais peut-être tout simplement parce qu'effectivement, ça ne les intéressait pas, ou ils vivent dans un monde différent, parce que pour un rat, les odeurs sont plus importantes que la vision, etc. Donc c'est aussi pour ça, probablement, parce qu'on est capable de leur poser des questions qui les intéressent, qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'espèces qui semblent plus intelligentes que ce qu'on croyait au départ.
Oui, j'ai une remarque par rapport à deux exemples. En fait, c'est les deux animaux qui sont les plus communs auprès de l'homme. C'est le border collie et puis le cochon. Mmh. Vous avez... pas parler de la sélection qui est produite sur ces animaux.
Oui.
Et du coup, de la capacité d'un border collie de pouvoir assimiler un certain nombre de caractères. Est-ce qu'un caniche est capable de le faire de la même manière, par exemple? Ou alors de la sélection du cochon qui n'a pas été sélectionné sur ses caractères d'intelligence, mais sur ses caractères de production de viande?
Oui, c'est une question tout à fait intéressante, effectivement. Mais pour les chiens, c'est clair qu'il y a un effet de la domestication, déjà pour toute l'espèce de chien. Quand on compare des chiens et des loups, par exemple, quand il s'agit de tâches, on va dire, d'intelligence générale, on trouve des choses tout à fait comparables. Quand il s'agit de communication avec l'humain, donc la capacité à répondre à des gestes de pointage, par exemple, indiquer une direction ou une boîte, les chiens vont répondre très facilement, alors que les loups, beaucoup moins. Et parmi les races de chiens, on trouve également des capacités différentes qui semblent liées effectivement à la sélection. Le border collie, c'est un chien de berger, donc qui a été entraîné à répondre à... Enfin, qui a été sélectionné depuis des générations pour répondre à des ordres précis, et ça joue certainement un rôle dans sa capacité à le faire. Maintenant, ce qui est d'autant plus surprenant chez le cochon, c'est que lui, il est sélectionné pour grossir vite et avoir bon goût, et que malgré tout, il semblerait qu'il y ait des capacités cognitives insoupçonnées chez eux. Mais donc là, pour le coup, ce n'est pas la domestication, ça leur viendrait au contraire de leur passé d'animaux sauvages vivant en groupe, où c'était important de savoir lire le comportement des congénères, notamment pour trouver où était la nourriture.
Madame Porcher, on va vous écouter. Merci beaucoup, Dalila Beauvais. Donc, Georges, je vous laisse se présenter. Oui, Jocelyne, je suis contente que Jocelyne Porcher soit
Jocelyne
là.
Jocelyne Porcher est une femme de terrain, c'est-à-dire qu'elle a commencé comme elle veut, zootechnicienne, donc elle a une perception de l'animalité de façon extrêmement concrète, comme éleveuse. Et ensuite, elle s'est tournée vers des recherches beaucoup plus spéculatives et philosophiques. Elle a eu un prix sur l'élevage, un partage de sens entre les hommes et les animaux récemment. Et sa spécialité, justement, c'est la relation entre les animaux et les éleveurs, où elle montre la force que peut avoir cette relation. Elle a beaucoup écrit aussi avec la philosophe Vinciane Després, et plusieurs de leurs livres sont en présentation. Je vous conseille de les consulter ultérieurement.
Eh bien, donc, bonjour. Donc, dans les pays industrialisés aujourd'hui, l'élevage n'a vraiment pas la cote et il semble qu'il existe un climat consensuel pour crier « haro sur le baudet ». Que lui reproche-t-on ? L'élevage, mais aussi les animaux d'élevage, sont accusés de contribuer pour une part importante à l'émission des gaz à effet de serre. Ce sont des ruminants notamment qui sont montrés du doigt parce qu'ils produisent du CO2 et du méthane. L'élevage, par ailleurs, occuperait les terres d'une manière indue. Il participerait à leur dégradation. Il accaparerait les ressources en eau. Et il polluerait. Il serait cause d'une réduction de la biodiversité, car les animaux d'élevage occuperaient le terrain légitime des animaux sauvages. Il monopoliserait les subventions européennes et son bilan énergétique serait très médiocre, puisqu'il faut 10 fois plus d'énergie pour produire des protéines animales que des protéines végétales. L'élevage, d'autre part, depuis les débuts de la domestication, serait en soi une violence contre les animaux dont il faudrait les libérer. Alors, quelles sont les solutions proposées par les uns et par les autres pour faire face à une telle calamité ? Visiblement, l'élevage en est une. Alors, pour la FAO, qui a produit en 2006 un rapport éclairant sur le sujet, enfin, éclairant, c'est de l'humour, parce que le titre du rapport s'appelle « Livestock Long Shadow », donc on peut traduire par « l'ombre », la grande ombre de l'élevage. Donc la FAO, en conclusion de ce rapport, préconise d'industrialiser plus et mieux. D'une part, parce qu'elle considère que la demande alimentaire mondiale ne va pas cesser d'augmenter et va même, dans les pays en développement, se porter de façon accrue sur les produits animaux. Et d'autre part, parce que 80% du secteur des productions animales est dû au système industriel. Donc pour la FAO, le processus d'industrialisation est inévitable et il faut le réguler, notamment du point de vue de la gestion des déchets. Il s'agit en somme de soutenir les orientations défendues par les filières industrielles et intensives et faire ce qu'ils appellent un élevage écologiquement intensif. Pour les libérateurs des animaux et pour de nombreux acteurs de l'environnement, face à l'exploitation des animaux et à l'hégémonie de l'industrie de la viande, la seule solution serait de devenir végétarien ou d'accepter une artificialisation de notre alimentation. Alors les rapports, les ouvrages, les articles sur le sujet laissent perplexe. Sur le fond, le constat est juste. Mais est-ce bien l'élevage le coupable ? Si l'élevage est une telle calamité, comment se fait-il qu'il existe depuis 10 millénaires et qu'il soit consubstantiel de la majorité des sociétés humaines ? À lire les chefs d'accusation, il semble que sur bien des points, il s'agisse d'autre chose que d'élevage. On ne peut que le constater, ces critiques font référence aux productions animales, à l'industrie mondiale de la production de matière animale. Et cette industrie, effectivement, participe grandement à la destruction de notre environnement, à la destruction des animaux d'élevage, à la souffrance et à l'appauvrissement de millions de paysans dans le monde. puisque tu as dit que j'étais éleveur, ça c'est une brebis que j'avais dans mon troupeau. Une brebis corse. La promotion d'une industrialisation accrue des productions animales par la FAO et la confusion constamment entretenue par les uns et par les autres entre élevage et production animale témoignent de l'ignorance de ce qu'est l'élevage et de ce que sont les animaux d'élevage. Bien que de ces derniers, en fait, il soit fort peu question, sauf à les accuser de produire du CO2 ou de manger le pain des gazelles. Dans tout ce qui est écrit sur le sujet, rien n'est dit de ce qui fonde et construit jour après jour le rapport de travail aux animaux d'élevage. Ce qui fait que rien n'est pensé, rien n'est anticipé de ce qui est en train de se perdre au-delà du saccage de l'environnement. Car les éleveurs, les animaux d'élevage et l'élevage en tant que culture sont en voie de disparition. Alors, qu'est-ce que l'élevage? Qu'est-ce que ça veut dire élever les animaux? L'élevage est une relation de travail avec les animaux. C'est une relation qui a 10 000 ans d'histoire, mais qu'il faut se garder de considérer de manière fossilisée ou au contraire modernisée. L'élevage, quasiment partout dans le monde, est un processus dynamique qui permet à des humains et à des animaux, ensemble, de faire face à la nécessité, voire à la violence de la nature et des rapports sociaux. Et contrairement aux apparences, l'élevage est une entreprise de pacification et grâce au travail, une entreprise d'émancipation des humains, mais aussi des animaux. Cette dynamique multimillénaire a été profondément touchée par l'industrialisation de nos sociétés, qui a imposé un rapport instrumental à la nature, aux animaux et à nous-mêmes. Car la relation de travail avec les animaux n'a pas une seule rationalité qui serait économique, elle en a plusieurs, et notamment une rationalité relationnelle. La rationalité économique existe en élevage, c'est évident, mais elle n'est pas première. Les éleveurs travaillent avec des animaux et tirent un revenu de ce travail pour pouvoir vivre avec eux. Les transformations des relations avec certains animaux, comme les ânes en France ou les éléphants en Asie, en témoignent. Le travail historique de ces animaux, par exemple porter des charges, pour ce qui concerne les ânes ou les éléphants, n'est plus nécessaire et ils sont remplacés par des machines. Pour continuer à vivre avec les ânes et les éléphants, éleveurs et cornacs doivent donc leur trouver une autre fonction. Je pourrais même dire un autre travail ou voir un autre métier. Par exemple, là, promener des touristes. Autrement dit, c'est le travail qui permet de conserver le lien. Les pourfendeurs de l'élevage oublient donc que la relation avec les animaux d'élevage ne sert pas qu'à produire des biens animaux. Ce volet relationnel est complètement occulté alors qu'il est essentiel pour les éleveurs d'une part, mais plus largement pour la majeure partie d'entre nous. Alors, cette rationalité relationnelle de l'élevage distingue profondément l'élevage des productions animales. Car les productions animales, donc par production animale, je veux dire la production de matière animale à partir d'animaux, ces productions animales donc, n'ont qu'une seule rationalité, c'est le profit. Et ainsi que l'exprime de nombreux travailleurs que j'ai rencontrés, c'est le profit. Et le profit à tout prix et à n'importe quel prix. Et c'est cette course au profit qui est responsable de la pollution, de la déforestation, de la famine, de la souffrance des animaux et des humains, et plus généralement de la misère. Les productions animales sont issues d'un détournement du rapport de travail aux animaux en élevage. En même temps qu'émergeait le monde capitaliste et s'industrialisait nos sociétés au XVIIIe et XIXe siècle, les industriels ont décidé qu'il n'y avait aucune raison pour que les animaux, pour que la nature tout entière, échappe au processus industriel. Ils ont décidé que tout était ressource, que tout était potentiellement rentable. C'est cet esprit qui est encore, et peut-être plus que jamais, à l'œuvre dans les productions animales, ou par exemple dans la production d'OGM, mais également dans le management humain. Alors, le cadre théorique qui me semble le plus fertile pour penser notre relation aux animaux d'élevage, mais pas seulement, si j'en crois les exposés précédents, c'est-à-dire pour penser l'élevage dans le cadre des rapports sociaux, c'est le don. C'est la théorie du don décrite par Marcel Mauss. Parce que l'élevage renvoie en effet à ce qu'Alain Caillé, qui est un théoricien du don, nomme la sociabilité primaire, les rapports de parenté, les liens amicaux, l'amour, et la sociabilité secondaire, dont un des exemples est le travail. L'élevage participe de la société primaire, de la sociabilité primaire, parce que la relation entre éleveurs et animaux engage l'affectivité, le corps et la subjectivité. Un grand nombre d'éleveurs ont une disposition affective amicale envers leurs animaux, et celle-ci s'étaye sur des représentations de l'animal très proches de celles de l'être humain en tant qu'être vivant sensible, et sur la perception d'une capacité commune à éprouver du plaisir et de la souffrance. Mais en même temps, les animaux participent du travail de l'éleveur et du collectif de travail, et donc de l'économie marchande. Le travail avec les animaux assure à l'éleveur un revenu, c'est-à-dire donc qui lui permet de vivre. Le rapport économique à l'animal doit donc être intégré dans des échanges qui relèvent du domaine de l'affectif, c'est-à-dire de la sociabilité primaire. Comme je l'ai dit, cette sociabilité est première dans la relation et c'est elle qui constitue le socle de la sociabilité secondaire. Alors c'est important parce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas de travail avec les animaux si les éleveurs n'aimaient pas leurs animaux. Et inversement, le rapport affectif, l'affection pour les animaux doit être intégré dans le travail. Parce que l'amour ne doit pas prendre toute la place, sinon évidemment l'éleveur ne pourrait pas gagner sa vie. Mais il n'y a pas de scission entre ces deux types de sociabilité. Il y a oscillation de l'éleveur sans arrêt et en fonction du contenu du travail et du système de production entre l'un et l'autre. Autrement dit, les animaux d'élevage font partie de la famille, mais ils sont aussi intégrés dans des rapports de travail. Et les éleveurs donc doivent jongler avec ça. Donc le travail avec les animaux, donc si je me renvoie au cadre de la théorie du don, oscille entre intérêt et désintéressement, entre obligation et liberté. Intérêt parce que l'éleveur vise à une production et un revenu qui sont indispensables à sa survie économique, et désintéressement précisément parce que, comme j'ai dit, le lien prime sur le bien. Ça oscille entre obligation et liberté parce que le cadre de la relation est la relation de travail avec ses contraintes et ses règles, mais aussi parce que ces règles ne sont pas absolues et que les éleveurs, comme leurs animaux, savent les enfreindre. Animaux et éleveurs sont donc impliqués dans un cycle du donner-recevoir-rendre à l'échelle d'une vie d'homme et d'animal, mais aussi, il faut le penser, à l'échelle d'une vie, du troupeau et de la famille. Et selon l'échelle, évidemment, la vie et la mort n'ont pas le même sens. À l'échelle du troupeau, la vie circule entre les hommes et les animaux. Les éleveurs donnent la vie et in fine la reprennent pour nourrir les êtres humains, c'est-à-dire pour entretenir la vie. Comme l'expliquent les éleveurs, les animaux donnent beaucoup. Ils donnent leur présence, leur confiance, leur affection. Ils communiquent avec leurs éleveurs et ils acceptent les règles du travail. Les éleveurs, eux aussi, donnent de l'affection à leurs animaux et ils leur témoignent du respect, de l'admiration et font de leur mieux pour leur offrir une vie bonne, c'est-à-dire une vie, comme l'écrit Yankelevitch, qui permette la mort. Le don de cette vie bonne est au centre des rationalités relationnelles du travail en élevage. Et pour Sébastien Mouret, qui vient de faire sa thèse avec moi, elle constitue un geste de gratitude. C'est-à-dire que la vie bonne que les éleveurs donnent à leurs animaux, par exemple hein, pour ces vaches montbéliardes, c'est un geste de gratitude parce qu'ils ont le sentiment d'avoir une dette envers leurs animaux. Et cette vie bonne, donc, c'est la reconnaissance de leur dette. Et c'est aussi, c'est ce que souligne Sébastien, la reconnaissance de la valeur des animaux. Pour l'éleveur, le don de la vie bonne et la reconnaissance permettent la mort de l'animal, à condition toutefois que les conditions de la mort soient conformes aux valeurs de l'éleveur, c'est-à-dire qu'elles excluent la souffrance et qu'elles aient un sens en cohérence avec l'ensemble du travail de l'éleveur. Et c'est pourquoi, sur ce point précis, les choses sont très difficiles pour les éleveurs, car il y a de moins en moins d'alternatives à l'abattoir industriel, lequel est complètement incompatible avec le respect. Et même si la bonne mort est une représentation utopique de ce que peut être la mort, le fait est que la mort existe et qu'elle est la condition de la vie. La mort des animaux est acceptable par nous si les animaux ont eu une chance de vivre leur vie et si cette vie a été bonne autant qu'elle peut l'être et en tout cas meilleure qu'elle ne l'aurait été en dehors de l'élevage, meilleure qu'elle ne l'aurait été sans nous. Plus paisible et plus intéressante, plus riche en sens et en relations. Et la mort est acceptable si l'éleveur a respecté les termes de l'échange. Si l'espérance de vie des animaux n'a pas été réduite à quasiment rien, si l'éleveur et plus largement les consommateurs et les citoyens sont en mesure de reconnaître que l'animal a été. C'est-à-dire si collectivement nous n'avons pas fait comme si l'animal n'était pas, comme s'il ne comptait pas. Pour l'éleveur alors, la mort de ces animaux prend sens et laisse la place à la vie. Donc sa vie économique, tout d'abord, qui est la condition de sa survie en tant qu'éleveur, mais aussi la vie de son troupeau, car l'animal continue d'exister dans ses descendants. Alors, travailler avec les animaux, c'est donc vivre avec des animaux. Les sociétés humaines se sont construites pour le meilleur et pour le pire avec des animaux. Les animaux font partie de nous-mêmes d'une manière complètement sous-évaluée aujourd'hui, mais c'est en élevage que cette osmose entre monde humain et monde animaux apparaît le mieux. Car le travail rend sensible les affinités qui existent entre eux et nous. Parce qu'il faut le souligner, et je pense que je parle des animaux d'élevage, mais pas seulement les animaux d'élevage, l'environnement naturel des animaux d'élevage ici, c'est le travail. Les animaux en effet d'élevage vivent dans deux mondes, leur monde propre de cochon ou de vache et le monde humain du travail. Et l'éleveur vit également dans ces deux mondes, le sien et celui des animaux. Pour les éleveurs comme pour leurs animaux, l'élevage vise à faire cohabiter ces deux mondes de la manière la plus intelligente possible. Et c'est ça que permet le travail. Car travailler, c'est transformer le monde, c'est se transformer soi-même, c'est accroître ses potentialités, sa sensibilité, et c'est s'émanciper. Et le travail en élevage, parce qu'il dissout les frontières, parce qu'il fond les affectivités, parce qu'il appelle le don et le contre-don, est une voie d'émancipation pour les animaux. D'émancipation, évidemment, ou d'aliénation, si le travail est perverti, mais c'est exactement la même chose pour nous-mêmes. Mais les animaux, donc, quelle place ont-ils dans le travail ? Alors, je ne vais pas développer ces deux études, mais j'ai mené deux études avec deux étudiantes, justement à partir de cette question de la place des animaux dans le travail, donc, qui sont des études pluridisciplinaires, qui mêlent sociologie, psychologie du travail, zootechnie et éthologie. Donc, la première étude s'est déroulée en 2007 dans une exploitation laitière, donc Primolstein, de vaches en zéro pâturage, donc c'est-à-dire des vaches qui restent tout le temps en stabulation. Donc Tiffaine, qui était étudiante avec moi, est restée 3 mois sur la ferme. Elle a vécu 3 mois dans la famille de l'éleveur. Elle a travaillé avec lui, elle a appris à reconnaître les vaches, donc 60 vaches. Elle s'était fait un petit cahier photo avec les vaches de face, de dos, de profil, etc. Et donc elle a appris comment fonctionnait le robot de traite. Donc, après un mois passé comme ça, à prendre le contexte, elle a passé plus de 2 mois à observer les animaux directement et via la vidéo. Et donc, le protocole, on l'avait construit toutes les deux et avec l'éleveur. Donc, s'il y avait des choses que l'éleveur ne trouvait pas très sensées, on a corrigé. Donc, on a construit un protocole d'observation des vaches. Et la seconde étude, c'est une étude avec des cochons bio en plein air. Et donc la Aurore, donc l'étudiante, a passé, elle, 5 mois sur la ferme à travailler. Et d'ailleurs, elle s'est tellement prise au jeu qu'elle ne se rappelait plus qu'elle était là pour faire un stage et qu'elle avait un mémoire à faire parce qu'elle avait grand plaisir à travailler avec les cochons et l'éleveur. Et donc là aussi, on a construit un protocole d'observation avec l'éleveur. Donc à partir de l'hypothèse que les animaux collaborent au travail. Et donc, et c'est ça qui est très important, c'est que du coup, la conséquence de ça, c'est que leur comportement et leurs besoins, évidemment, dépassent le cadre naturel qui leur est assigné. Les animaux d'élevage sont renvoyés, par exemple, dans les théories du bien-être animal à la nature. Or, mon point de vue, c'est que c'est des animaux qui ne relèvent plus seulement de la nature, puisqu'ils sont placés dès leur naissance dans notre monde humain et dans un monde humain très spécial, qui est celui du travail. Donc, ils ont des besoins, à mon sens, qui sont liés au travail. Et donc, les résultats dans les deux cas ont montré que les animaux donc, ne sont pas de purs objets du travail qui sont poussés par l'instinct ou par le conditionnement. Ils sont aussi, à leur manière, des acteurs du travail. Alors, le niveau de collaboration des animaux, ce qu'on a constaté, c'est évidemment qu'il dépend du système de production et des possibilités qui sont laissées aux animaux d'exprimer leur potentiel cognitif et émotionnel. Mais la collaboration des animaux, dans ce cas, est surtout liée à la relation aux êtres humains. Parce que ce qu'il y a de moins naturel dans l'élevage, en effet, c'est le lien à l'éleveur. Et c'est précisément ça que permet le travail. Les éleveurs l'expriment et l'étude des conduites des animaux le montre. Les animaux recherchent les caresses, la sollicitude et l'amitié de leurs éleveurs. Et donc, bien au-delà des besoins naturels des animaux, entre guillemets, ceux-ci donc ont des besoins, comme je le disais, qui ne sont absolument pas pris en compte dont un besoin fondamental, qui est un besoin humain lié au travail, sur lequel on parle beaucoup aujourd'hui dans le cadre du management dans les grandes entreprises, c'est un besoin de reconnaissance. Dans les élevages qui sont dignes de ce nom, les animaux sont reconnus par leurs éleveurs. Mais en système industriel, par contre, où le pouvoir prime sur l'amitié, les animaux ne le sont pas. La reconnaissance, c'est un élément clé du travail. Elle est donnée dans le monde humain par les pairs, c'est-à-dire ceux qui peuvent vous juger, savoir si vous faites ou non du bon boulot, ou par les clients, ceux pour qui vous travaillez. Mais il y a un type de reconnaissance qui n'est pas pris en compte non plus, c'est la reconnaissance que reçoivent donc les éleveurs de la part de leurs animaux. Donc là, l'inverse, c'est un jugement que j'ai appelé jugement du lien, c'est-à-dire la façon dont les éleveurs se sentent reconnus par leurs animaux. Et en système industriel, les éleveurs ne se sentent pas du tout évidemment reconnus par leurs animaux, ils ont même l'impression d'être détestés par leurs animaux. Bon, il y a une salariée que je cite souvent qui dit « Si les animaux pouvaient parler, on se ferait engueuler tous les jours. » Or, se faire engueuler, même métaphoriquement, même du point de vue des représentations par les cochons, évidemment, ce n'est pas du tout agréable dans le travail. Parce que ce qu'ils recherchent avant tout, les salariés, c'est du lien et du sens. Donc, c'est une situation qu'on peut très bien renvoyer au métier de service, hein, où les employés se font engueuler par les gens à qui ils sont supposés rendre service. Par exemple, les infirmières, leurs patients. On entend à peu près les mêmes choses dans les discours des personnes. Et donc, pour conclure, je vais revenir au début de mon intervention. Parce que l'élevage, c'est une relation extraordinaire aux animaux qui, en fait, n'a aucun équivalent. Et il est en train de progressivement disparaître du fait de l'ignorance et de la conjonction malheureuse entre différents types d'intérêts. Parce que les filières industrielles veulent faire des productions animales les plus rentables possibles. Et ce processus mène à l'industrialisation ultime des productions animales, c'est-à-dire à la production de viande sans animaux. Produire de la matière animale, mais qui ne serait pas extraite des animaux, par exemple. Donc là, il y a des travaux sur la viande de synthèse. Et c'est l'intérêt des productions animales de se passer d'animaux, parce que les animaux, parce qu'ils sont vivants, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont affectifs, ils sont un frein à la production. Le vivant sans la vie, je crois que c'est extrêmement important, parce que c'est ça que veut l'industrie, et c'est vers ça qu'on va. Et si on est ce qu'on mange, ben on a du souci à se faire. D'autant plus que cette orientation biotechnologique est soutenue par des associations de protection animale comme PETA aux USA, qui proposent, là, comme vous le voyez, de récompenser les chercheurs qui mettront au point le procédé de production de viande de synthèse. Ceci est au prétexte à la fois de protéger les animaux, puisqu'on ne les tuerait plus, on ne les tuera plus parce qu'ils n'existeront plus, et puis de protéger l'environnement, évidemment, puisque le steak in vitro ne participera pas à l'émission de gaz à effet de serre. Donc en fait, il est clair pour moi que la collusion peut être insu. Ils sont là les cochons. Il est clair pour moi que la collusion peut être insu, mais peut-être pas, entre l'industrie des productions animales, la recherche sur le bien-être animal et une grande partie des associations de protection animale concourent à la disparition de l'élevage, des éleveurs et des animaux d'élevage, et ceci dans un laps de temps qui, à mon sens, est beaucoup moins éloigné qu'on pourrait le croire. Mais tout cela se fait sans qu'on ait pris en compte l'ampleur de ce que nous allons perdre. Parce que l'élevage est une culture dont nous n'avons pas encore mesuré toute la richesse, même à vrai dire, nous ne l'avons pas mesuré du tout. C'est une culture du lien aux animaux et à la nature. Et à mon avis, et je conclurai là-dessus, c'est une irremplaçable école de vie. Voilà, merci.
Je crois qu'avec Jocelyne Porcher, on est déjà dans les thématiques de cet après-midi. Hein.
Oui, là, on a un pied dans l'éthique.
Complètement. Je voulais dire quelque chose.
Sur une question provocatrice pour commencer.
Oui.
Les protéines animales sans animaux, ça existe, ça s'appelle des patates de soja. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, là, c'est parce que là, c'est des protéines végétales.
Oui, végétales, bien sûr. C'est pour ça que c'est provocateur.
Oui, c'est là. Là, c'est vendu comme de la viande, quoi.
Bien sûr.
Voilà,
c'est bien sûr.
Là, en plus, vous montrez une image, entre guillemets, idyllique de l'élevage. On sait très bien, quand on lit vos ouvrages et quand on lit aussi les interviews que vous avez faites d'éleveurs, c'est pas facile tous les jours. Ça veut dire qu'il y a quand même une productivité. Il y a quand même aussi le fait, par exemple, pour les cochons auxquels vous travaillez particulièrement sur les cochons, le fait de faire naître plus de porcelets, etc. Donc il y a de la perte et tout ça. Donc là, vous êtes dans un champ, si je puis dire, idyllique, dans le bon sens du terme. Mais si on passe à l'industrialisation, vous avez un autre discours, de toute façon.
Oui, là, c'est parce que vous m'avez demandé de parler des éleveurs. Donc j'ai parlé de l'élevage, j'ai pas parlé des productions animales.
Oui, oui,
mais je fais
oui,
bien
oui.
différent, justement, entre l'élevage. L'élevage, c'est ça.
C'est ça.
Ce que je dis. On a beau me dire, vous dites c'est idyllique. J'ai été éleveuse, je connais des tas d'éleveurs. Mais c'est ça la vie avec les animaux. C'est quelque
voilà.
chose de merveilleux.
Voilà.
Alors, l'industrialisation, on a fait quelque chose de carrément pourri,
oui.
Immoral, obscène, vulgaire, j'ai pas de mots.
Oui.
Mais ça n'a rien à voir avec l'élevage. Mmh. C'est ça que j'essaye de dire, moi, c'est que ça n'a rien à voir avec l'élevage.
Et vous avez raison de nous montrer ça, parce qu'on l'a oublié. Et ce n'est pas une vision passéiste du tout, mais bien concrète. On l'a oublié et on ne la voit pas. Alors, est-ce que je me demande s'il n'y a pas la même manière de sentir les choses, c'est-à-dire la même manière de voir. Cet élevage, on ne le voit plus. Il y a des gens comme vous qui en parlent. Les éleveurs, on ne les entend pas, que pour des images assez aussi stéréotypées, des paysans qui font, etc., des manifestations, qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas de subvention. Et on ne parle pas non plus de l'élevage industriel. Enfin, on ne le voit pas. Alors, on cache la nature et on cache l'industriel. Donc, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on veut cacher tout le temps ?
Parce que c'est abominable.
Pas l'élevage tel qu'il
non,
est montré.
Non, mais la production.
Ah oui, de toute façon, c'est pour ça.
Le site Porchef est très beau livre, que vous savez là-bas, sur les
exactement.
Sur les élevages de porcs.
On l'a vu, oui. C'est
extraordinaire.
Mais oui, c'est très dur. Très dur. Très dur. Mais là, c'est bizarre parce que vous montrez un certain. Vous nous ouvrez les yeux sur quelque chose qui existe qu'on ne voit plus.
C'est-à-dire, c'est ce que je dis, c'est que c'est en train de disparaître parce que ça ne sert personne. Enfin. C'est l'argent qui compte. Donc là, ces éleveurs qui en fait, ils produisent pas de valeur ajoutée dans le circuit. Les vaches mangent de l'herbe, ils n'utilisent pas d'énergie. Donc ils n'intéressent personne, en fait. Donc ils disparaissent, tout le monde s'en fout. Le but, c'est de produire de la valeur ajoutée, de faire circuler l'argent, de produire du profit. L'élevage, c'est pas un générateur de profit. C'est pour ça qu'au 19e siècle, d'ailleurs, l'industrie s'est emparée de l'élevage pour faire en sorte que ce soit un process qui génère du profit, de la valeur ajoutée à tous les...
Oui, Jocelyne, je voulais seulement te demander, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a deux catégories extrêmement distinctes qui seraient deux sortes de bornes, d'un côté l'élevage, de l'autre côté la production animale, ou est-ce qu'il n'y a pas le problème de la continuité? Autrement dit, ma question elle est simple, à partir de quand un éleveur devient producteur?
Là, je pense que la différence forte est dans le système de production et chez l'éleveur, c'est les rationalités du travail. À quoi sert le travail ? Est-ce que le travail sert à faire de l'argent pour le système global, par exemple la filière porcine, puisque c'est la filière que je connais le mieux, et ça sert à faire de l'argent pour cette filière, ou est-ce que ça sert à faire du lien, à faire connaître les animaux, à rendre les animaux heureux, parce que c'est un des buts de l'élevage ? Est-ce que ça sert à être heureux soi-même? Bon, ça, voilà. Pour moi, c'est ça qui. À quoi sert le travail? C'est ça qui fait la différence. Individuellement et collectivement.
Si ça ne dépend pas de la taille de l'exploitation, on peut très bien imaginer un éleveur qui a une très petite exploitation, qui correspondrait à l'élevage extensif et qui correspond aux images que tu as montrées, qui aurait 30 bêtes, 25, mais qui le fait pour des motivations, par exemple, qui peuvent être financières. On peut considérer ça aussi. Tous les petits exploitants ne sont pas éleveurs pour faire du lien par amitié, affection, amour pour l'animal. On peut considérer qu'il y a des exploitants, même de petite taille, qui s'occupent de faire de l'argent. Malgré tout, est-ce que c'est complètement je ne sais pas, je te demande, est-ce que c'est impossible de penser ça, ou est-ce que c'est problématique de rentabilité et de faire pas du profit pour le profit, mais quand même en vivre? Est-ce qu'on ne retrouve pas ça à tous les niveaux, y compris dans les petites exploitations?
Non, mais c'est sûr, ce que j'ai dit, c'est que c'est pour ça que la théorie du don est intéressante pour penser l'élevage, c'est que il y a un don, mais ce don, c'est le don moussien typique, c'est-à-dire il oscille entre intérêts et désintéressement. Oui, on est avec des animaux, il faut gagner sa vie avec les animaux, sinon on ne peut plus vivre avec eux. Moi, j'ai fait de l'élevage parce que j'avais envie de vivre avec des animaux, et ce qui m'a étonné quand j'ai repris des études, c'est que j'ai vu que les autres éleveurs, c'était pareil. Moi, je croyais être spécial, mais pas du tout, je me suis rendu compte que tous les éleveurs étaient comme ça. Alors, il faut gagner sa vie, et gagner sa vie, ça nous permet de vivre avec des animaux. J'ai un exemple, par exemple, d'amis qui travaillaient, qui étaient bergers. Ils ont dû arrêter à cause du contexte économique avec les moutons. Et bien, justement, ils ont eu des ânes. Mais ils ont changé de métier, c'est-à-dire maintenant, ils font du tourisme, quoi. Mais le but, c'est de vivre avec les animaux. Et comme tu veux vivre avec les animaux, tu cherches voilà, là où ils vont. On va, eux et toi, on va pouvoir... évidemment, le cas le plus compliqué, c'est les cochons, puisque leur productivité, c'est la viande. C'est l'animal le plus difficile à penser dans le cadre de ce que je dis. Mais par exemple, pour les vaches, c'est... Et justement, pour moi, ce qu'il faut, c'est chercher un autre métier pour les cochons, tout simplement.
Vous montrez aussi bien dans le film, dont j'oublie toujours le nom, mais ce très beau film que tout le monde devrait voir, qui est terrible, hein, à quel point l'éleveur souffre aussi, lui-même, de laisser son cochon. Il n'est pas là quand le cochon s'en va à l'abattoir. Et il parle toujours, justement, et ça, il y a un passage extraordinaire dans le film, c'est l'éleveur qui est en train de caresser la truie, et de la caresser parce qu'elle va avoir des petits, et il est là en train de lui dire je suis tout à fait conscient du don qui se fait. Et c'est un moment extraordinaire dans le film, parce que, voilà.
Elle a la mise bas, où c'est un des grands bonheurs de l'élevage, hein, ça, c'est sûr. Hein. Donc,
il y a une autre question. Est-ce que vous savez aujourd'hui où en est la recherche sur la viande in vitro ?
Non, je suis ça d'un point de vue théorique, mais en tout cas, ça avance parce qu'il y a de plus en plus de papiers là-dessus. Sur Internet, vous trouvez des papiers scientifiques. Vas-y. Ouais.
Le problème de la viande in vitro, c'est qu'on arrive à obtenir une sorte de masse gélatineuse, mais on n'arrive pas à faire le mouvement, le travail qui consoliderait un muscle. Donc, même si les recherches se développent, il y a une sorte de barrière qui font qu'on arrive à produire une masse, mais qui ne ressemble pas du tout à de la viande parce qu'il n'y a pas eu d'exercice. Donc, comment faire de l'exercice aux cellules ? C'est ça la question qui se pose et sur laquelle on se heurte en ce moment.
Oui, moi je suis impressionnée par ce que vous dites et je pense que c'est très important sur la collusion possible entre le discours productiviste et le discours protectionniste. Mais j'éprouve un malaise lorsque vous parlez... Enfin, la notion de vie bonne et la notion de mort digne, je peux les comprendre. Mais lorsque vous dites qu'en élevage, les animaux vivent une vie meilleure qu'elle n'aurait été sans nous, j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez dire ça. C'est meilleur en fonction de notre système de valeurs mais je comprends pas pourquoi vous êtes si sûr de ça.
Non, ce que je parle des éleveurs, de ce qu'ils ont dans la tête, c'est-à-dire qu'on fait de l'élevage parce qu'on a le sentiment, oui, qu'on donne une vie bonne et meilleure qu'elle aurait été. On a le sentiment.
Maintenant. Qu'elle n'aurait été sans les éleveurs, dans la nature.
Oui.
Mais pourquoi meilleure ? Vous avez dit riche en sens, mais ça nous fait plaisir à nous, avant tout, ce sens. C'est une projection quand même. Bien sûr que ça peut faire du bien peut-être aux animaux, mais...
Non, c'est-à-dire, c'est un peu, ça rejoint un peu, par exemple, l'exposé de Chris avec les soigneurs. C'est-à-dire que Chris, par exemple, tu dis qu'on a forcé les animaux à vivre dans notre monde. Bah, justement, en élevage, non, on les force pas. Moi, ce qui m'a étonnée quand j'étais bergère, que j'étais avec mes brebis, c'est pourquoi elles restaient avec moi. Et pourquoi, par exemple, mon chien reste avec moi. Pourquoi les animaux restent avec nous ? Pourquoi il y a quelque chose avec nous, avec eux plutôt que rien ? C'est ça la vraie question des animaux. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ?
Mais c'est l'idée de la hiérarchie qui me gêne. La vie meilleure, je vois pas.
Bah parce que mais c'est pas une vérité. Je veux dire, c'est pas une vérité. C'est des représentations qu'on a et ce pourquoi les éleveurs font ce métier. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que la vie qui est donnée aux animaux. Il faut rappeler quand même que la plupart des animaux d'élevage, même tous, c'est des animaux qui sont des proies dans la nature. Une brebis dans la nature, son devenir, il est rapide, c'est d'être mangé par les loups ou par les bestioles, les chiens errants. Voilà, c'est ça le devenir d'une brebis dans la nature. C'est pareil pour les vaches, c'est pareil pour les cochons. Les cochons dans la nature, j'ai fait une étude avec des sangliers. Les petits sangliers, ils vivent pas vieux. Hein, il y a une représentation de la nature. Différentes selon, évidemment, ces idéaux, mais en élevage, la nature n'est pas forcément belle. C'est-à-dire qu'on rajoute quelque chose. Le travail, justement, et c'est ça la grandeur du travail, c'est de rajouter quelque chose à la nature qui est de la transformer de façon positive. Et là, le travail en élevage fait ça. Il fait que les brebis, au lieu d'avoir peur, par exemple, quand Deleuze décrit l'animal aux aguets, et je l'ai écrit, mais justement, c'est l'animal aux aguets. Mais quand on rentre dans une bergerie, mes animaux ne sont pas du tout aux aguets. Moi, quand je rentrais pour la traite, les brebis, elles s'étiraient, baillaient, voire elles avaient l'air de dire, mais t'as vu l'heure, tu es en avance. Voilà, c'est une vie paisible. Ce n'est pas des bestioles qui ont peur chaque fois qu'il y a un bruit. Et elles n'ont pas peur du loup, par exemple. Et c'est ça le gros problème de la réintroduction du loup dans les montagnes, c'est qu'on rompt. On rompt ça, ce don de la paix avec les animaux. C'est pour ça que c'est pour moi, l'élevage, c'est une entreprise de pacification qui diminue la peur. Voilà, diminue la peur. Et mettre le loup dans les montagnes, et ben c'est pour moi, c'est une rupture du contrat. Donc, je dirais pas le contrat, quoi. C'est une rupture de l'engagement. C'est une rupture du don.
Donc, il y a d'autres questions, mais de toute façon, Chris Hartzfeld a dit tout à l'heure qu'on ne s'interdisait pas d'interprétation anthropomorphique, et moi je trouve qu'on peut y aller, c'est bien. On va continuer de toute façon, même en y travaillant cet après-midi avec les notions d'éthique, mais c'est important. Hein, ça fait aussi partie du fait que ce sont deux mondes qui s'échangent, hein, l'homme de l'animal et le nôtre, alors soyons anthropomorphes. Donc.
Oui, j'aurais voulu savoir, ou alors je n'ai pas fait attention. Mais quelles étaient les conclusions de la stagiaire dans l'élevage de Primolstein ?
Alors oui, j'ai pas détaillé. Elle a observé les vaches avec l'éleveur. Elle a observé les vaches entre elles. Elle a observé les vaches autour du robot de traite. Alors moi, mon idée autour du robot de traite, vu que mon entrée c'est le travail, c'était de dire puisque si on considère le travail humain, le travail est là où la procédure n'est pas. Bon, c'est les théories de psychologie du travail. Voyons voir les vaches, qu'est-ce qu'elles font là où la procédure n'est pas, c'est-à-dire dans l'aire d'attente avant l'entrée du robot de traite. Parce qu'il y a le robot de traite, il y a une aire d'attente là où les vaches. Là, il n'y a pas de procédure, puisque comment elles règlent l'entrée dans le robot de traite ? Est-ce que celle, la dominante qui arrive là, avec ses gros bras et qui pousse tout le monde et qui. Et en fait, l'étudiante a vu qu'il y avait un rapport de domination qui jouait, mais il y avait beaucoup un rapport de politesse. Et dans ce que la stagiaire me montrait d'image, quand on discutait, beaucoup de choses qui nous renvoyaient à la primatologie et à ce que disent les primatologues de la politesse, des échanges comme ça, les vaches qui font ça. Alors évidemment, là, il y avait beaucoup d'anthropomorphisme et ça a été reproché à mon étudiante lors de son... Mais on l'a assumé complètement dans son rapport. Les vaches qui font comme ça, là, de dire, bon, tu me laisses passer, allez, laisse-moi passer. Ce qu'elle a appelé, elle, politesse ou câlin. Et elle employait des mots, je ne sais plus lequel c'était. Ah oui, là, elle avait dit la frimousse de la vache au moment de son exposé. En parlant d'anthropologie, d'anthropomorphisme, au moment de son exposé, elle a dit « j'adorais cette vache ». Parce que je lui ai dit, à un moment donné, comme c'est des étudiantes que j'ai qui arrivent des écoles d'éthologie, un peu à la manière de Dalila. Donc, moi, je leur propose des méthodes. Elles sont un peu estomaquées. Elles me disent « mais mes profs m'ont dit le contraire, mais il ne faut pas que ci, il ne faut pas que ça ». Je lui ai dit « si, laisse-toi aller, vas-y, si tu aimes les vaches ». Si tu as des préférés, préfère-les, mais écris-le. Et donc, elle avait des préférés. Et donc, elle dit, voilà, je ne sais plus comment elle s'appelait, c'était ma préférée. Elle avait une si jolie frimousse. Et alors, il y a un des membres du jury qui a dit, mais frimousse, vous ne pouvez pas dire ça d'une vache. Une vache n'a pas une frimousse. Enfin, voilà, c'était assez... Non, excusez-moi, c'est... Non, c'est pas ça du tout. Non, et donc on a montré que donc les relations de dominance ne jouaient pas seulement dans la zone où les vaches se débrouillaient par elles-mêmes. Et donc il y avait autre chose. Alors c'est important parce que les concepteurs du robot font comme s'il n'y avait que les relations de dominance qui jouaient dans l'entrée au robot. Alors qu'on a montré que ce n'était pas le cas. Il y avait d'autres, et notamment les affinités entre vaches. Les copines se laissent passer, les relations entre vaches. Les copines entre elles, d'abord, elles sont en même temps au robot, et puis elles, voilà. C'est, et puis, pour ce qui concerne la relation en éleveur, là, on a montré des choses très jolies pour montrer que les vaches anticipaient complètement le travail de l'éleveur. Par exemple, lorsqu'on a montré... C'est que quand, par exemple, l'éleveur arrive avec un seau pour mettre quelque chose sous les pattes des vaches, bah, les vaches elles s'enlèvent de leur logette pour lui laisser la place. Et ce, dès qu'il arrive avec son seau. Par contre, il y a un autre geste qu'il fait, il pousse la paille. Et dans ce cas-là, donc c'est l'inverse. Quand il met une poudre, elles doivent rester. Quand il met la paille, elles doivent sortir. Et les vaches anticipent dès qu'elles le voient arriver. Il a le seau, il n'a pas le seau. Elles savent ce qu'il va faire. Et ce qu'on a fait de joli, c'est qu'un jour, il a fait les deux en même temps. Et donc là, les vaches étaient complètement déroutées parce qu'il avait le seau qui signalait le fait qu'elles devaient sortir de leur logette et en même temps, il bidouillait de la paille qui faisait qu'elles devaient rester. Donc les premières ne savaient pas quoi faire du tout. Les premières du rang de logette, elles étaient complètement désemparées et elles se faisaient engueuler. Et donc, en fait, l'éleveur voulait qu'elles sortent de la logette malgré les signaux contradictoires. Et au bout de trois vaches, la troisième vache a vu qu'il fallait en fait sortir. Et toutes les vaches sont sorties. Donc ça, c'est, elles ont compris malgré. Donc ce n'était pas juste un conditionnement, puisque là, l'ordre était contradictoire. Elles se sont aperçues de ce qu'ils voulaient. Et par ailleurs, on a vu aussi que comment les préférés de l'éleveur avaient une latitude pour ne pas respecter les règles du travail, qui était très jolie. Quoi. C'est-à-dire que là où toutes les vaches sortaient, la préférée, les préférées, elles attendaient qu'il arrive. Alors, c'était un éleveur assez brutal. Elles attendaient qu'il arrive pour... Donc la vache préférée, elle le sait, et elle s'octroie une latitude pour le respect des règles du travail. Il y a des règles dans le travail. Ça, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a des règles du travail, que les vaches les connaissent, elles les respectent. Je parlais de règles. Il y a des règles du travail. Par contre, les préférées... Ben, elles se disent, bon, ben, les règles ne sont pas pour moi, quoi. Ou pas tout à fait pour moi. Et l'éleveur est beaucoup plus coulant avec une vache qu'il aime bien, évidemment, qu'une vache qu'il n'aime pas.
Oui, j'avais deux questions.
J'ai écrit un article qui va paraître prochainement là-dessus dans la revue du MOS, qui rend sur Internet.
Oui, j'ai deux questions à vous poser. On peut déplorer la disparition de l'élevage, comme vous le faites, et vouloir freiner la logique industrielle. Mais pour revenir à votre question initiale, comment faire face à l'augmentation des besoins en viande au niveau mondial, compte tenu des accélérations démographiques? Ça, c'est ma première question. Et puis, la deuxième, ça concerne le bien-vivre. Où commence le respect? C'est-à-dire que où est-ce qu'il s'arrête? Même si on peut essayer d'améliorer les conditions de tuerie, on peut dire les choses ainsi, mais est-ce qu'on doit s'interdire de modifier une espèce? Est-ce qu'on doit leur accorder une espérance de vie qui serait plus longue? Vous voyez, où commencerait cette définition du bien-vivre?
Alors déjà, j'ai pas de réponse à moi toute seule. Je pense que contrairement à ce qui est dit par l'industrie de la viande, on pourrait nourrir suffisamment tout le monde en produits animaux s'il y avait une juste répartition. C'est le problème, mais c'est le problème général. Le problème, c'est pas la production, c'est la répartition. Il y a déjà, on pourrait tous manger moins de viande, manger moins de lait, mais tous en manger. C'est un problème de régulation des richesses du capitalisme. Ce n'est pas un problème de production. Quoi. C'est pas vrai. Quoi. Moi, ça, c'est mon sentiment. Sur les conditions de la mort, c'est sûr que c'est la difficulté de l'élevage. C'est la difficulté de la vie aussi, tout court. C'est vivre et mourir, voilà, ça va ensemble. Alors maintenant, c'est vrai que ça ne résout pas la question. Est-ce qu'il y a une bonne mort? Est-ce qu'il y a un bon abattoir? J'en sais rien. Moi, j'étais éleveuse, j'ai tué des animaux. Je pense qu'il y a une façon de tuer les animaux qui a un sens dans son métier. Maintenant, est-ce que ça peut se collectiviser? Est-ce que le rapport à la mort, par exemple, qu'a un éleveur quand il tue ses propres animaux ou qu'il fait venir un tueur, comme c'était mon cas, et que c'est une relation très proche, très pensée, très assumée avec évidemment tout le doute qui va avec. Est-ce que ça, on peut le collectiviser dans un petit abattoir, voilà, où on pourrait dire, eh ben, on respecte les animaux, on les tue, mais on les respecte. Ça, c'est une question à quoi on a essayé de réfléchir d'ailleurs avec des étudiants belges à propos de l'abattoir de Bruxelles, qui est un abattoir qui reste dans Bruxelles, qu'il est question de fermer. Des étudiants et architectes étaient venus me voir pour réfléchir à est-ce qu'il vaut mieux que l'abattoir disparaisse, est-ce qu'il vaut mieux qu'on en fasse un centre d'art, est-ce qu'il vaut mieux que ci, est-ce qu'il vaut mieux que ça. Moi, je pense que l'abattoir devrait être rendu visible. Il faudrait réinverser le processus d'invisibilisation de l'abattoir pour qu'on se rende compte, effectivement, qu'on mange de la viande et qu'on assume tous collectivement non seulement la vie des animaux d'élevage, mais ce qui est une tendance des gens, si on lutte pour la protection animale, si on est sensible au sort des cochons, c'est parce qu'on se sent responsable de ces animaux. Alors il faudrait pousser plus loin et puis rendre visible l'abattoir, qu'il perde cette espèce de nébuleuse entre le cochon et la tranche de cochon. Et que...
Oui, est-ce que le développement de l'agriculture biologique offre une solution de survie aux éleveurs ?
C'est-à-dire que oui, je pourrais dire oui, mais oui à la condition que la bio reste la bio. C'est-à-dire si la bio devient de la bio-industrielle comme c'est le cas, si le processus d'industrialisation de la bio se poursuit comme c'est le cas en ce moment, eh ben non, parce que à ce moment-là, la bio n'a, par exemple pour ce qui concerne l'élevage, quelle est la valeur ajoutée de la bio industrielle sur l'élevage quand McDonald's peut faire de la production bien-être animal, entre guillemets, et quand la bio tend à réduire les cahiers des charges pour plaire à Carrefour, à Auchan. Alors la bio, oui, si c'est la bio éthique, la bio historique, la bio qui fait que l'homme, l'animal, la nature, tout ça, voilà, ça, etc., etc. Mais la bio de Carrefour, non, pas du tout. La bio de Carrefour, elle s'en fout de l'élevage.
Oui, moi je voulais juste faire une remarque. Là, je suis président d'une association de défense de l'environnement sur Chauvigny qui s'appelle l'ACIP. Donc on a un site internet, je vous invite à signer la pétition. On s'oppose donc à l'arrivée d'une porcherie industrielle parce que la réalité, là vous l'avez, elle est encore plus triste et plus sévère que celle qu'on peut imaginer. Là on voit arriver maintenant ici dans notre région, mais c'est dans tout l'ouest de la France, des porcheries industrielles, mais c'est de l'ordre de 20 000 cochons, une production de 20 000 cochons par an dans des conditions abominables, donc dans un élevage sur caillebotis hors sol, où là, il n'y a plus de lien entre l'animal et la terre. Donc, on est dans un système de production de matière de viande.
De matière animale.
Et je dirais qu'il n'y a même plus de lien à l'éleveur, parce qu'il n'y a plus d'éleveurs. Ce sont des industriels qui managent l'affaire, qui ont, comme vous l'avez dit, comme seul souci, la rentabilité. Et ça, je peux vous dire que c'est strictement le seul souci. Un kilo de porc, un kilo de carcasse de porc est vendu 1 euro à l'heure actuelle. Et si on pouvait le produire encore moins cher, on le ferait. C'est ça la seule logique qui mène le monde. Et je vois, pour ce qui concerne la porcherie de Chauvigny, ce sont trois ouvriers, imaginez, qui vont assurer la production de 20 000 cochons. Voilà la réalité, elle est pire que celle qu'on peut imaginer. Et juste, je voulais dire une dernière chose, c'est quand même que le drame des élevages, parce que toute la production de viande est quand même liée à l'élevage industriel en France et dans les pays industrialisés, c'est 98% de la production française, c'est pas de la bio, c'est de l'élevage industriel. Et cet élevage industriel, je dirais, a des retombées qui sont plus grandes, parce que 80% par exemple des productions de céréales sont liées, je dirais, aux élevages industriels, parce que 80% des céréales servent à nourrir les bêtes. Bon, je vais arrêter là, mais c'est vrai que la situation est extrêmement dramatique. Voilà. Donc je vous remercie pour ce que je viens d'entendre et pour votre intervention.
Merci, on va applaudir nos conférenciers de ce matin.
Merci aussi au public qui a participé beaucoup aux discussions.
Merci beaucoup au public, vraiment.
Vous voyez qu'avec cet exposé, on est passé déjà un petit peu dans le registre éthique. Oui. Et donc on vous attend tous à 14h30 pour démarrer la session sur l'éthique animale.
Merci.